Sport à des champions. Toute l'actualité de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Chaque mercredi à 18h30, présenté par Maxime Balade sur RVR.
Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur RVR pour l'Aura des champions, votre rendez-vous régional à ne pas manquer. Et ce soir, c'est une émission spéciale puisque nous vous l'avions annoncé, Maxime n'est pas là et c'est donc moi qui vais orienter les débats de notre équipe. Notre équipe, justement, composée de voix que vous avez l'habitude d'écouter sur nos ondes, a commencé par notre spécialiste volley et basket, Hugo Platé. Salut Hugo.
Salut Charles, salut Théo, bonsoir à tous.
Même si sa prédilection reste le football, il s'intéresse à de nombreux sports. C'est Théo Place qui complète notre équipe. Bonsoir Théo.
Damn les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Théo Pineshape. On se retrouve aujourd'hui pour une émission de radio présentée par Charles Perrier.
Merci pour ce jingle Théo. Et ce soir comme d'habitude une demi-heure pour traiter de l'actualité sportive de la région que vous pouvez retrouver sur notre site parlonsport.fr et celui de la radio rvrradio.fr. Mais sans plus attendre, voici le sommaire de l'émission. Au sommaire cette semaine, coup de cœur et coup de gueule des chroniqueurs avec notamment la chorale de Rouen, on va y venir dans un instant. Suivra le sujet de la semaine divisé en deux parties avec d'abord la mauvaise passe de l'AS Saint-Etienne et un petit peu d'actualité tennis avec la Fed Cup. Nous aurons ensuite quelques infos sur le vif auxquelles vont réagir nos chroniqueurs avant de terminer avec l'agenda. Allez c'est parti pour votre nouvelle édition de l'Aura des Champions.
La radio qui vous ressemble, RVR.
On commence donc cette émission avec coup de cœur, coup de gueule. J'ai demandé à nos chroniqueurs de chercher un coup de cœur ou un coup de gueule. Et je crois qu'on va commencer par toi, Hugo. Il me semble que c'est un coup de cœur.
C'est un coup de cœur, oui, parce que la chorale gagne enfin après de nombreuses défaites. Et après la belle victoire à la Leaders Cup qui emmène directement la chorale en play-off. Puisque les Rouennais se sont imposés vendredi soir 69-62 face au Havre. Un match qui s'est dessiné en toute fin de partie, puisque notamment grâce à Joe Burton qui met 20 points, 9 rebonds, 3 passes décisives et qui finit à 26 évaluations. C'est vraiment le joueur cette année qui permet à la chorale de Rouen de résister dans ce championnat. Et la chorale de Rouen le sait, il faut qu'elle continue ses victoires pour pouvoir espérer aller en play-off, puisque même si elle obtient sa place directement en play-off grâce à sa victoire à la Leaders Cup, si la chorale de Rouen se retrouve en relégation, elle ne pourra pas disputer les play-offs. Donc oui, un gros coup de cœur, et en espérant que la chorale continue sur cette lancée et puisse disputer les play-offs correctement.
Oui, c'était une victoire assez attendue et c'est une victoire très importante hein, avant un match décisif, on va y venir. Toi Théo, est-ce que tu suis un petit peu ces résultats de la chorale là justement après sa dernière défaite, c'était face à Poitiers, hein, 85-68 en déplacement.
Il va bien le falloir de toute façon, parce que la fin de saison approche inévitablement de plus en plus vite. On a connu un début de saison presque idyllique de la part de la chorale, surtout avec la Leaders Cup. Surtout la préparation qui avait vraiment mis l'eau à la bouche par rapport à ce qu'on avait pu voir ces derniers temps dans la Halle Vacheresse. Et là, la fin de saison, va pas falloir louper la marche, parce que sinon ça pourrait être très très dangereux pour le club.
À savoir quand même que malgré tout, même si la préparation était idyllique, la chorale a quand même joué de nombreuses fois face à Aix-Maurienne et Saint-Chamond, qui sont pas deux grosses écuries de Pro B. Et voilà, après elle fait un match exceptionnel face à Chalon en préparation, elle gagne contre Chalon et Jean-Denis Choulet. Mais voilà, après oui, c'est sûr que ça a été plus dur et la chorale fait quand même un bon début de saison. Mais là, c'est vrai que c'est quand même plus critique et plus dur. Mais je pense que le discours du président, le discours du coach, lundi matin après une grosse défaite, a dû être très utile et a dû bien remotiver l'équipe rouennaise.
Sachant que Saint-Chamond a un match d'avance par rapport à Rouen, qui est encore à 26 rencontres avec Rouen, Boulazac et Blois.
Oui, puis tu l'as dit, Hugo, il faudra se maintenir, donc faudra pas finir dans les deux derniers pour pouvoir au moins se maintenir et puis jouer les playoffs, comme tu l'as dit. Et puis il y a des matchs décisifs qui arrivent, on va y venir dans l'agenda, mais il y a notamment un match à Boulogne, face à Boulogne, je me rappelle plus, qui est 16e, donc on va dire premier non relégable, qui sera voilà décisif.
Ouais, c'est un match à Boulogne qui va être décisif. En plus, Boulogne a perdu de 10 points face à Évreux. Le match décisif, ça va être vraiment le match face à Saint-Chamond, puisque Saint-Chamond est relégable. Et Saint-Chamond a encore toutes les chances. Il me semble qu'ils sont à une victoire derrière la chorale. Donc ouais, je pense que ça va être un match décisif et il va vraiment falloir finir cette fin de saison de la plus belle des manières pour pas se faire peur et pas attendre le dernier match pour savoir si oui ou non nous sommes maintenus en Pro B cette saison.
Saint-Chamond qui a perdu 66 à 77 à domicile face à Bourg-en-Bresse, hein, le leader de Pro B. Et Saint-Chamond qui fait partie, bah, bien sûr, de nos équipes de la région. Et dans la région, on se retrouve avec deux équipes relégables, à savoir donc Saint-Chamond et Vichy-Clermont, bon dernier.
Ah oui, Vichy-Clermont a clairement du mal cette saison. Et Saint-Chamond est capable de se maintenir parce que perdre contre Bourg-en-Bresse, voilà, Bourg-en-Bresse, leader incontestable de la Pro B, perdre contre Bourg-en-Bresse, c'est normal, ils perdent que de 11 points, mais voilà, mais ils sont capables de se maintenir, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué pour Vichy-Clermont, qui, eux, ont gagné ce week-end, par contre.
Allez, on va fermer cette page basket. Merci, Hugo, pour ce coup de cœur pour la chorale. On le rappelle, hein, la chorale qui a des matchs décisifs à venir, on va y venir dans l'agenda. Théo, il me semble que toi, c'est un coup de gueule.
Oui, bah, mon coup de gueule, c'est tout simplement l'état de forme de l'AS Saint-Etienne, même si on pourrait également parler de l'état de forme de Lyon, qui, lui, est un peu plus serein quant à la course à l'Europe, alors que Saint-Etienne, malheureusement, est complètement à la traîne. Même si la victoire à Dijon avait été une vraie galère, Saint-Etienne s'était tout de même imposé 1-0. Entre-temps, il y avait eu, juste avant, pardon, les matchs contre Metz, 2-2, avec un sauvetage miraculeux. Le match nul à Bastia, 0-0. La défaite contre Caen, 1-0. Et là, l'AS Saint-Etienne nous offre encore un magnifique spectacle qui n'a duré que sur les 45 minutes de la deuxième mi-temps et qui a réussi, une nouvelle fois, à arracher le match nul face à la terrible équipe de Nantes menée par l'entraîneur Sergio Conceição. Donc ouais, une fin de saison qui s'annonce vraiment difficile pour Saint-Etienne, qui est toujours en manque d'un buteur. Voilà, ça fait on ne sait combien de saisons désormais que l'AS Saint-Etienne n'a pas un vrai buteur devant. Si l'on regarde les stats, Amouma est le meilleur buteur de Saint-Etienne avec le terrible nombre de 6 buts marqués. Derrière, c'est Beric, Kevin Monet-Paquet, Loïc Perrin et Nolan Roux qui sont à 4 buts. Une fin de saison où l'ASSE va devoir faire le maximum pour engranger 2 points et espérer que Paris et Monaco s'affrontent en finale, en finale de Coupe de France, pour que la 6ème place devienne européenne. Et encore, avec Bordeaux et Marseille dans la course, rien n'est joué pour les Verts.
Ouais, donc on voit que c'est très compliqué, hein. C'est un peu notre sujet de la semaine aussi, la Saint-Etienne. Comme tu l'as dit, c'est assez consternant, hein, les buteurs de la Saint-Etienne, quand on voit que Loïc Perrin, qui est quand même défenseur central, hein, a marqué autant de buts que Nolan Roux. On a l'impression qu'il y a aussi un vrai problème avec Nolan Roux, hein, qui joue très peu, qui est souvent écarté, on a l'impression qu'il y a un problème avec Galtier. C'était ce match face à Nantes. C'est Nantes. Est-ce qu'on peut Théo évaluer Nantes comme un concurrent direct pour l'Europe, sachant que Nantes est à 3 points de la SSE, donc juste derrière, et la SSE qui est à 4 points de Bordeaux, qui est 5e pour l'instant et qui occupe la place qualificative pour l'Europa League.
Ça aurait été invraisemblable de dire ça en début de saison quand René Girard était à la tête de l'équipe, mais actuellement, oui, la SSE peut craindre le FC Nantes sur la fin de la saison.
Voilà, c'est malheureusement le constat qu'on peut en tirer. Nantes qui est à l'inverse de la Saint-Etienne, qui est sur une très très bonne série avec des joueurs en forme, hein, notamment le joueur qui a marqué face à Saint-Etienne, j'ai mangé son nom ce week-end.
Nakulma.
Voilà, Nakulma. Donc Saint-Etienne qui a, comme tu l'as dit, une très mauvaise période. C'est une victoire sur les 7 derniers matchs de Ligue 1, hein, puisqu'avant Caen, c'était même la défaite à Montpellier. Ça va pas du tout pour les Saint-Etienne. On parle beaucoup de Christophe Galtier sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que t'en penses, Théo, de Christophe Galtier par rapport à l'année prochaine, parce qu'on pense, hein, on suppose bien sûr qu'il va pas partir avant la fin de la saison, il va bien sûr terminer la saison, mais pour l'année prochaine.
Et sur internet et surtout sur les réseaux sociaux, justement, c'est le débat qui divise complètement les supporters stéphanois. C'est l'avenir de Galtier avec l'AS Saint-Etienne. Est-ce que Galtier doit rester à Saint-Etienne? Est-ce que Galtier doit partir de Saint-Etienne? Quand on voit la gestion des 11 de départ et des hommes, avec les problèmes comme il y a eu avec Nolan Roux par exemple cette saison, où là le retour inimaginable de Benjamin Cornier, qui sauve d'ailleurs l'AS Saint-Etienne face à Nantes, on comprend pas vraiment ce qui se passe dans la tête de Galtier actuellement, et même moi je ne sais pas ce que je préférerais si j'étais un supporter stéphanois pour eux l'année prochaine.
En tout cas, Galtier, c'est un entraîneur qui a, on peut le dire, hein, qui a un peu sauvé l'AS Saint-Etienne, hein, quand il a repris à la suite, je crois que c'était Alain Perrin avant lui, hein, il était adjoint d'Alain Perrin. L'AS Saint-Etienne était en mauvaise posture saison après saison, après avoir joué le maintien jusqu'à la dernière journée certaines saisons. Il a apporté un trophée hein, qu'on attendait depuis très longtemps à Saint-Étienne. Donc, est-ce que tu penses que cette saison, la fin de saison sera un tournant et ce sera le moment de changer d'entraîneur et surtout changer pour qui ?
La fin de saison sera forcément un tournant. Galtier est quand même là depuis 2009. C'est actuellement l'entraîneur qui est en activité, qui a la plus longue activité dans un club en Ligue 1 depuis que Christian Gourcuff avait quitté le FC Lorient. Il y a eu cette fameuse Coupe de la Ligue dont tu parles en 2013 qui a fait un bien fou à la ville et au club. Maintenant, le problème, c'est ça. C'est si Galtier part, qui peut être séduit par l'AS Saint-Etienne actuellement?
Voilà, on a parlé hein, de Patrice Garande, entraîneur du Stade Malherbe de Caen, qui fait une très très mauvaise saison, hein, qui est pour l'instant 16e, mais qui se rapproche des places de relégation. Personnellement, je pense pas que ce serait une bonne opération pour l'AS Saint-Etienne de recruter Patrice Garande, qui malheureusement a des difficultés avec tous les clubs qu'il dirige en Ligue 1.
Concrètement, recruter Patrice Garande, ça serait juste pour recruter un ancien de la maison. Concrètement, autant faire monter des anciens comme Laurent Batless ou, enfin voilà quoi. Mais c'est vrai que là, malheureusement, il y a surtout le problème de la direction du club qui reste une vraie énigme pour le football français. Il y a ce fameux salary cap qui a ses avantages mais qui a aussi ses inconvénients, et ça pourrait être et c'est même un frein pour le développement de l'AS Saint-Etienne actuellement.
Oui, on parle du terrain, mais malheureusement le mal est peut-être beaucoup plus profond hein, avec justement ce salary cap dont tu parles là. Tous les joueurs sont limités à 90 000 euros par mois maximum, plus bien sûr les primes. Donc quand on voit que certaines équipes sont prêtes à mettre 450 000 euros par mois pour avoir Balotelli, par exemple, si on cite Nice, l'AS Saint-Etienne ne peut clairement pas s'aligner sur ce genre de joueurs, et ça devient problématique sur les résultats et sur le classement en Ligue 1. Donc j'ai une question également pour toi, Hugo, parce que dans tous les sports, on voit que les entraîneurs, bon, il y a un certain va-et-vient quand les résultats vont moins bien. Est-ce que changer d'entraîneur, ça peut avoir un réel impact sur les résultats à court terme ?
Ça peut avoir un réel impact, c'est sûr, tant un impact positif qu'un impact négatif. On a bien vu la fin de l'ère Jean-Denis Choulet, je parle du basket, c'est bien sûr, qui a fait que la Chorale a ensuite vécu des saisons catastrophiques et est redescendue en Pro B. Donc oui, ça peut avoir des impacts, c'est sûr, c'est sûr. Mais après, moi je pense que c'est à l'équipe dirigeante du club de prendre la meilleure décision, de savoir, de peser le pour et le contre, de voir ce qui est le mieux pour l'équipe, pour le club, pour les supporters et pour la ville. Ouais, ça peut avoir du bon, on sait pas. Galtier, Théo l'a dit, est là depuis 2009. Peut-être qu'un changement peut faire que on va avoir une autre tactique, on va avoir un autre jeu, et peut-être ça peut être positif.
Si le changement est opéré assez tôt dans l'été, ça peut permettre au nouvel entraîneur de mettre en place son équipe, d'observer ses joueurs pendant la phase de reprise. Après voilà, c'est quand on change d'entraîneur, quand l'équipe va vraiment mal, ça a un effet souvent assez positif parce que ça fait un électrochoc. Donc ce sera pas le cas pour l'AS Saint-Etienne, on verra sûrement les meilleurs résultats l'année prochaine, mais en attendant ces mauvais résultats là ça pourrait impacter la qualité des joueurs qu'on retrouve sur le terrain, puisque sans Coupe d'Europe, c'est plus difficile de garder les joueurs et d'en attirer des meilleurs. Donc on verra la fin de saison qui se profile pour l'AS Saint-Etienne. Notez qu'il y a de très gros matchs. Là encore, on va y revenir dans l'agenda. On va parler de Marseille. Il y a Paris également. Il y a Monaco, hein, match en retard. Fin de saison qui sera plutôt compliquée pour l'AS Saint-Etienne, même si les coupes nationales ne sont plus là. On va passer à la deuxième partie du sujet de la semaine. Et messieurs, on va parler un petit peu de la Fed Cup. Alors c'est en plein dans l'actualité nationale et rouennaise. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer, messieurs, pourquoi déjà, Hugo, c'est dans l'actualité rouennaise ?
Pourquoi c'est dans l'actualité rouennaise ? C'est une très bonne question. Non, parce que la Halle Vacheresse sera le temps d'un week-end un terrain de tennis, un terrain de terre battue, puisque Rouen a été choisi pour accueillir le match de barrage de l'équipe de France de tennis face à l'Espagne. Donc voilà, Rouen accueillera la Fed Cup. Rouen vivra tennis pendant un week-end.
sur terre battue, hein, puisque la Fédération française de tennis a décidé de faire jouer les confrontations sur terre battue. Et pourquoi dans l'équipe, pourquoi dans l'actualité nationale? Alors c'est au sujet de Caroline Garcia notamment. Théo, t'as suivi un petit peu cette affaire qui secoue les médias spécialistes de tennis notamment depuis avant-hier et puis depuis hier. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette situation?
Ah, c'est un imbroglio, mais totalement invraisemblable. Alors que depuis le début de la saison, Caroline Garcia avait annoncé sa volonté de se concentrer sur les sur sa carrière en simple et de faire une impasse sur la Fed Cup. La France était vue éliminée au premier tour sans justement Caroline Garcia, une défaite à Genève contre la Suisse. Et là, ce matin, qu'est-ce qui tombe ? Caroline Garcia est convoquée par la Fédération française de tennis pour participer au barrage à Rouen.
Et oui, donc à noter, hein, bien sûr, que c'était hier matin, hein, l'émission est enregistrée. Caroline Garcia convoquée par Yannick Noah pour disputer ce tour de barrage de Fed Cup. Alors on va revenir un petit peu en arrière. Donc ça, c'était lundi, sur le coup de 22h. Caroline Garcia publie un communiqué que je vais vous lire, c'est assez rapide. Alors, de retour en France après une série de tournois disputés en zone américaine, je suis contrainte de me retirer du tournoi de Stuttgart, auquel je devais participer à compter du 24 avril, et donc après la Fed Cup, en raison d'une blessure. En effet, depuis le début de l'année, je joue avec une douleur récurrente au dos, apparue pendant l'US Open 2016. Une inflammation douloureuse au nerf sciatique qui m'oblige à opérer une pause et pour tenter d'aborder la saison sur terre battue dans de meilleures conditions. Et la phrase qui est très importante, un retour à la compétition pourrait être envisagé pour le tournoi de Rabat qui débute le 1er mai, ou plus sûrement pour le tournoi de Madrid le 8 mai, donc quelques week-ends seulement après la phase de Fed Cup. Et là, les trois autres joueuses majeures, hein, qui est de l'équipe de France féminine, à savoir Kristina Mladenovic, Pauline Parmentier et Alizé Cornet, ont tweeté moins d'une heure après, toutes les trois le même tweet, à savoir LOL, L-O-L, Laughing at Love, qui veut dire en anglais, un petit peu, c'est un peu MDR en anglais. Hein. Et donc, il y a eu extrêmement de réactions envers ces tweets. Théo, est-ce qu'on peut penser que c'était moins d'une heure après l'annonce de ce communiqué par rapport à Caroline Garcia?
Oui, il faut pas se leurrer, elles ont complètement voulu jouer le jeu. Il y a Pauline Parmentier qui a publié un communiqué quelques heures après, ou le lendemain matin, je crois, en disant que ce n'était pas pour cibler Caroline Garcia. Oh mon Dieu, les médias, blablabla, ils parlent vite.
Oui, c'était hier matin.
Oui, enfin, c'est complètement risible. Enfin, on n'est pas dans leur tête, mais faut se douter que ce message est forcément ciblé pour Caroline Garcia. Mais il y a surtout la fédération qui est à mettre en cause dans cette histoire, parce que déjà Garcia avait fait preuve de sa volonté. Là, elle est convoquée contre son gré, mais depuis le début de l'année, le nouveau président dont le nom m'échappe, si Bernard Giudicelli avait annoncé dans le nouveau règlement de la Fédération française de tennis que les joueurs et joueuses devaient se tenir prêts à représenter la France. Autrement dit, il ciblait bien évidemment le côté masculin pour la Coupe Davis et le côté féminin pour la Fed Cup. Malheureusement, cette règle n'est pas du tout respectée depuis le début de la saison, avec les absences répétées des gros joueurs masculins français et de Caro Garcia du côté des filles qui publient ce petit communiqué de blessure. Alors oui, Caroline Garcia traîne une blessure depuis l'US Open 2016. Enfin là, voilà, quoi. Ça commence à se sentir que c'est un peu fait exprès.
Alors sa sélection a été officialisée hier mardi. Le gros problème par rapport au communiqué de Caroline Garcia, c'est qu'elle annonce qu'elle déclare forfait pour le 24 avril puisqu'elle est blessée, alors qu'elle est convoquée pour une confrontation qui se déroulera les 22 et 23 avril, donc avant. Donc c'est là le véritable problème. On comprend pas pourquoi Yannick Noah sélectionne Caroline Garcia. Mais bon, on a certainement des infos que Yannick Noah doit avoir par rapport à Caroline Garcia. Ils ont dû se concerter, hein, très très certainement. Est-ce que tu penses, Hugo, que cette affaire peut complètement couler l'équipe de France qui était déjà un petit peu mal embarqué suite après les affaires précédentes entre les filles.
En fait, une affaire comme ça, moi, je trouve ça complètement aberrant parce que la joueuse va faire un communiqué en disant non, enfin, en gros, non, je vais pas disputer la Fed Cup et non, je renonce à mes tournois futurs parce que je suis blessée. Ensuite, on a un communiqué de la Fédération française qui te dit bon, bah, du coup, la joueuse Caroline Garcia est convoquée. Donc, en fait, enfin, il y a un énorme problème de communication ou alors, de la part de Caroline Garcia, c'est un gros coup de bluff. Mais oui, ça va être préjudiciable à l'équipe de France, puisqu'on savait que Caroline Garcia et Kristina Mladenovic avaient eu un petit différend. Donc, voilà. Et puis là, je suis désolée, hein, mais les trois joueuses qui mettent un tweet en disant lol, oui, peut-être que la presse fait ci, peut-être que la presse fait ça. Mais faut pas non plus, nous prendre pour des abrutis, dirons-nous.
C'est un petit peu ce qu'elles attendent, hein, en tweetant toutes les trois le même tweet à la même heure. C'est un petit peu ce qu'elles attendent de faire réagir les gens.
Mais le but c'était de faire le buzz, le but c'était de faire réagir. Et bravo, hein, parce que niveau communication, toutes les trois elles ont réussi, ça a marché. Et voilà. Après, il va falloir quand même que chacune des filles mette un peu les histoires dans sa poche et n'oublie pas qu'elles viennent à Rouen pour s'imposer face à l'Espagne, parce que sinon, eh ben, elles redescendront. D'une division, et ça, voilà, quand on voit qu'il y a 6 mois, elles étaient, comment dirais-je, en finale de la Fed Cup, et que là, elles sont au fond du gouffre, c'est quand même un peu délicat.
Ouais, c'est dommage, d'autant plus que Caroline Garcia et Kristina Mladenovic forment un très bon double aussi.
Formé un très bon double, parce que je pense qu'actuellement, on n'est pas prêt de revoir ce double jouer. Déjà, sur cette saison, c'est impossible. Et si l'ambiance semble continuer ainsi, ça reste d'être difficile pour l'avenir de l'équipe de France.
Ouais, on verra qui Yannick Nora choisira d'aligner lors de ce tour de Fed Cup. En tout cas, j'avais une autre question, messieurs, par rapport aux réseaux sociaux. On voit que dans tous les sports, hein, les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés par les sportifs. Est-ce que vous pensez que l'image que donnent les sportifs d'eux sur les réseaux sociaux peut influer sur leur sélection en équipe nationale? Par exemple, on voit que, notamment dans le football, certains joueurs tentent au maximum de prouver leur motivation de par les réseaux sociaux pour intégrer l'équipe de France. Est-ce que selon vous, les sélectionneurs doivent faire attention à ça dans le bon et dans le mauvais sens?
Dans le bon et dans le mauvais sens, je sais pas, mais après les sélectionneurs, ils font forcément attention puisque eux aussi sont sur les réseaux sociaux et eux aussi publient beaucoup de choses. Après, des fois ça va dans le bon sens et des fois ça va dans le mauvais sens. On voit au basket Nicolas Batum qui renonce à disputer l'Euro. Donc voilà, après, malheureusement, après, ça peut influer ça peut avoir du bon comme ça peut avoir du mauvais. Mais je pense que ça a quand même un peu plus de bon qu'un peu plus de mauvais. Tout dépend après l'ampleur des réseaux sociaux.
Non, oui, les réseaux sociaux, actuellement, ça a une influence. On a l'impression que ça a une influence plutôt positive, mais qui s'avère parfois être très néfaste. Et parfois, il y a beaucoup de problèmes, justement, avec ces réseaux sociaux. Il y a encore quelques jours, il y avait eu une affaire avec le joueur de Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, qui avait favorisé un tweet qui insultait quand même le capitaine de son équipe, un fave qui avait été très rapidement envoyé, mais qui risque de laisser des séquelles à l'avenir. Et ça, malheureusement, c'est pas que le cas du football, il y a énormément de sports. Hugo l'a dit, il y a eu énormément de problèmes avec l'équipe de France de basket, et il y en aura d'autres, ça faut pas se leurrer.
Les infos sur le vif, messieurs, nouvelle rubrique, nouvel animateur, donc nouvelle rubrique. Je vous donne quelques infos, hein, sur quelques sports. Vous allez me donner votre avis, ou si n'en avez pas, vous abstiendrez. Je vais commencer avec la première info, l'interdiction de déplacement des supporters stéphanois à Marseille dimanche. C'est tombé en début de semaine. Saint-Etienne qui jouera à 21h au stade Vélodrome en Ligue 1 dimanche soir. Alors qu'est-ce que vous en pensez de cette interdiction de supporters?
Une nouvelle fois, c'est encore un événement honteux de la part de l'État et de la préfecture de police, pour le coup des Bouches-du-Rhône, parce qu'on est capable d'accueillir 8 millions de supporters à l'Euro. On veut accueillir je ne sais combien de millions de personnes estimées pour les Jeux Olympiques. Lyon va accueillir, c'est estimé à peu près à plus de 20 000 supporters turcs en Coupe UEFA. et on interdit le déplacement de quelques centaines de supporters à Marseille.
Mais en fait, c'est tellement régulier que ça devient déplorable et c'est quotidien, c'est tout le temps, on voit. Ouais, voilà. Et c'est dommage parce que c'est pas l'esprit du sport, c'est ça, c'est la rencontre entre supporters, défendre son équipe, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et ça, l'État et les forces de l'ordre, malgré un état d'urgence, ils respectent pas ça et c'est dommage.
Deuxième info, un peu de cyclisme, hein, on en parle assez peu dans l'aura des champions. Le forfait du coureur français Julien Alaphilippe pour les courses de printemps ardennaises, c'est-à-dire l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et le très célèbre Liège-Bastogne-Liège. Donc c'est, je vais vous recontextualiser l'info. Julien Alaphilippe, c'est un grand espoir hein, de la France. Il a 24 ans en termes de cyclisme. Il a fait un très bon début de saison avec notamment une 5e place sur le Paris-Nice, une 3e place sur Milan-Sanremo. Et puis une autre info, on a appris hier le report du match à ce soir qui se tient en ce moment même hein, du match entre Dortmund et Monaco suite à un jet de projectile sur le buste de Dortmund et à la blessure apparemment de Marc Bartra. Théo, tu peux peut-être nous en dire un peu plus, t'as suivi hier en direct l'événement?
Alors ouais, sur les environs de 20h-20h30 hier, ça a été la grosse panique du côté de Dortmund, où une cellule de crise a été ouverte au stade de l'équipe allemande. C'était assez compliqué hier, et même à l'heure actuelle où on enregistre l'émission, on n'en sait pas vraiment plus. Il y a un peu tout et n'importe quoi qui se dit sur les réseaux sociaux. Ça parle de 3 explosions qui auraient eu lieu au moment où le bus de Dortmund aurait démarré. Ça parle de blessures graves pour Marc Bartra, le défenseur de Dortmund, qui a été touché et qui aurait été emmené à l'hôpital. Ça parle également de simples coupures au bras. En tout cas, on sait juste que c'est quelque chose de très grave qui vient de se passer du côté de Dortmund et que le match aura lieu demain, s'il n'y a pas plus de report, à 18h45.
Et puis messieurs, vous avez sûrement entendu parler du record de naissance 9 mois après l'exploit face à l'Angleterre à l'Euro en Islande. Eh bien figurez-vous que le Parisien a enquêté et que finalement aucun chiffre n'atteste d'une hausse des naissances sur l'île nordique. Et puis, de toute façon, l'effervescence autour de l'équipe d'Islande a atteint son apogée aux alentours du 1er juillet 2016. Et donc, ce sera 9 mois après, seulement au 1er avril. Donc, visiblement, cette information était fausse, mais on peut peut-être s'attendre, effectivement, à un futur record de naissance d'ici quelques semaines.
La radio qui vous ressemble, RVR.
Voilà messieurs, c'est fini pour cette émission, c'est déjà terminé. Je remercie Maxime de m'avoir permis d'animer cette émission. J'espère qu'il reviendra très vite sur les ondes des RVR et ce, dès la semaine prochaine. Merci messieurs de votre participation, merci Hugo.
Merci à toi, merci à Théo et merci de nous avoir écoutés.
Merci Théo, j'espère qu'on te retrouvera très prochainement sur les ondes d'RVR.
Et c'est toujours avec un grand plaisir que je participe à cette émission, donc merci à toi Charles, merci à toi Hugo et merci à toi Maxime.
Merci à tous, très bonne fin de soirée sur RVR. Tout de suite, la suite de vos programmes. Salut, à bientôt.
L'aura des champions. Toute l'actualité de la région Auvergne-Rhône-Alpes, chaque mercredi à 18h30, présenté par Maxime Balade sur RVR.